14h05, vous écoutez France Inter tout de suite. On retrouve CO2, mon amour, avec vous, Denis Chessoux, bonjour.
Et bonjour Dominique Delarroix. Écoutez, avant que l'on remplace les platanes du midi par des arbres en plastique, hein, voilà, on va quand même faire cette émission. Alors, on ne va pas tirer le bilan carbone de la maison de la radio, parce que là, ça n'a pas été terrible, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, l'enquête est en cours, donc rassurez-vous, tout va bien. Bonjour à tous.
Combien d'anciens temps qu'on m'a rendu dans la crêle, hein.
Est-ce que tu as fait ton père? Non, ton père n'a pas fait ça. Où j'avais la maison derrière, là, le jardin. J'avais un cabinet en béton. Oui. Et après, dans le jardin, on avait un bidon rond, comme ça, un bidon, un seau, comme ça, tu prenais un machin comme ça, là. Mon oncle, il avait mis un bout de bois, on prenait la merde, on faisait les raies, on mettait dedans pour mettre les légumes. Ça, t'as pas fait ça.
Oui.
Ouais, mais dedans, on mettait dedans et on mettait les légumes.
Ouais.
Eh ben, tu vas dire ça maintenant aux jeunes. Eh ben, ça.
Eh ben oui, c'est de l'écologie de base. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, avec aujourd'hui Alain Gadan et Benjamin Lagatiné à la technique. Assisté de Stéphane Combes, c'est donc Christophe Imbert qui a colorié et réalisé l'émission, mais, en direct durant toute cette heure, eh bien c'est Hélène Bizio donc, qui va assurer cette diffusion. Et on va commencer par une petite réaction évidemment sur l'actualité que nous signons avec Frédéric Denré. C'est quoi ce monde? Il s'appelait Rémi Fraisse. Le Fraisse en occitan, c'est le frêne. 21 ans, Rémi aimait les arbres, la nature, la botanique. Il ne voulait pas de leur monde gaspilleur, d'une retenue hors de prix, d'un monde en vrac, d'un monde qui pense vieux, d'un monde 20e siècle, d'un monde grande surface irrigué pour toucher la PAC. On allait semer, s'adapter aux terres plus sèches, mais ça on s'en fiche. Fuite en avant, fuite d'eau, fuite d'argent public, un mort et les médias se réveillent. Tout le monde maintenant connaît Sivens. Passage en force, démocratie locale et communication proche du zéro. T'étais pas un casseur, Rémi, non, tu faisais pas partie de cet extrême tout incontrôlable pour qui la castagne n'est pas une option mais un mode d'expression. Une adrénaline, quel que soit le sujet, le lieu et qui dessert absolument toutes ces causes. Des djihadistes verts, comme l'a dit finement Xavier Belin. Djihadistes aurait été mieux convenu. Allez, je vous le donne. Quand la FNSEA couvre la cité administrative d'Albi de 800 tonnes de lisier, brûle la mutuelle sociale agricole et l'hôtel des impôts de Morlaix, on dit ce sont des paysans en colère. C'est pas bien, mais on les comprend. Quand des jeunes pacifistes s'opposent à un projet mal ficelé, je parle pas des casseurs, mal financé, au mérite flou, pour lequel les autorités se sont arc-boutées sur une vision du progrès issue des Trente Glorieuses, là, ce sont des djihadistes, des terroristes anti-progrès. Et puisque la France est un théâtre manichéen, on ne s'en sort pas, la police a débarqué en force. L'idée derrière, discours d'autorité soutenu par une majorité d'élus tarnais, et jouer de la force pour éviter un nouveau Notre-Dame-des-Landes, écraser toute résistance. Donc les anards, les extrêmes tout ont débarqué en force, l'affrontement inévitable est arrivé. Étudiant en environnement, naturaliste bénévole, un jeune, juste là, au mauvais moment, au mauvais endroit, est mort. C'était la nuit, on a tapé dans le tas, un mort et aussi, il faut le dire, 50 blessés chez les forces de l'ordre. Bref, un gâchis quoi qu'il arrive. Mais là, on va faire une pause pour calmer les esprits. Le Conseil général du Tarn n'a strictement rien voté, en fait, et refile le bébé à l'État. Mais les travaux, plus tard, doivent continuer, Rémi. Tu comprends ça? Trop d'argent engagé, la crainte des agriculteurs. Comprenez, c'est de l'argent public investi dans l'intérêt général de 40 fermes. Non, Rémi, décidément, ne comprendra pas. Lundi soir, on attendait toujours un mot de recueillement du chaleureux président du Conseil général du Tarn. Il a fallu 2 jours pour que le triste Thierry Carsenac réagisse. Et quand on regarde la vidéo, c'est absolument impitoyable. Frédéric Denré, à mes côtés, a écrit
« Il n'y a dans cette bouche pincée aucune affection, aucun regret. Il n'en sort que les mots d'un oncle déplorant, le dimanche midi en découpant le rôti, la chevelure trop longue d'un neveu qui n'a pas réussi son examen de droit. Il montre du doigt, donne la leçon. » Il ne parle pas, il récite, parce qu'il est perdu. Incapable d'empathie, il se raccroche à l'ordre, sa seule branche avant de tomber.
Ses condoléances sont arrivées, mais après. Et il a dit quoi? Mourir pour des idées, c'est une chose, mais c'est quand même relativement bête. Je sais, Brassens l'a très très bien dépeint, tout ça. Osera-t-il déposer une gerbe le 11 novembre afin d'honorer les poilus morts pour des idées? Osera-t-il fleurir les plaques et les croix plantées en l'honneur de résistants morts pour leurs idées? Osera-t-il emmener madame au bal du 14 juillet en pensant aux révolutionnaires morts pour leurs idées ? Alors, vous avez aussi bien dû inaugurer des expositions, des manifestations Jaurès. Jaurès, si, un lointain souvenir socialiste. Rappelez-vous, mort stupidement, lui aussi, pour des idées. Jaurès disait « Le courage, c'est d'aimer la vie. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Nos hiérarques socialistes au pouvoir ont attendu aussi 2 jours pour prononcer quelques mots de circonstance, incapables qu'ils furent de prononcer un mot d'émotion pour le gamin mort, pour son idée de la vie. Aussitôt dit, aussitôt rangé sous le tapis du rappel à l'ordre. Une zone humide, faut le rappeler, c'est un berceau de vie. C'est pas un théâtre de mort. Alors faut pas s'étonner que les gens fassent société dans leur coin. C'est quoi ce monde, se disait Rémy. Il voulait un monde sans retenue. Sans retenue d'inventer autre chose. Sans mettre l'eau des oiseaux en cage. C'est quoi ce monde? Ah, décidément, les retenues n'ont vraiment pas de tenue. Elles retiennent rien. Même pas la violence. La violence est la mort. Le projet surdimensionné faisait 1,5 million de mètres cubes. Il n'aurait jamais dû en faire tant. Et la différence, c'est le sang versé, parce qu'il avait le cœur grand, Rémy Lefrène. Alors on parle, vous savez, de compensation. On détruit un écosystème qui fonctionne et on refabrique autre chose en moins bien ailleurs. Mais toi, Rémy, 21 ans, qui va te compenser ? Alors au menu de cette émission, donc, on a des sujets évidemment tout à fait différents. C'est un magazine, vous le savez, on ira à Milligout pour le festival du film de d'oiseaux qui fête ses 30 ans. Nous volerons avec les oies dans le Cantal, nous transformerons du jus de choucroute et des crottes de panda en énergie. Mais oui, voilà, c'est ça aussi, donc c'est au-delà de mon amour. Frédéric Denré, donc avec nous, on revient quand même sur Sivens. La suite des événements, c'est un peu la patate chaude, c'est-à-dire que le conseil général et Thierry Carcenac n'a pas envie d'assumer le fait que l'on va arrêter définitivement les travaux. D'ailleurs, il ne le souhaite absolument pas. Donc, mardi, il va y avoir la réunion avec Ségolène Royal. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi donc, la FNSEA. Xavier Belin a été extrêmement clair en disant « Mais attendez, nous, on le veut. On peut mobiliser sans aucune difficulté plusieurs milliers d'agriculteurs sur le site. »
Eh bien là, ce serait une bonne occasion de voir si la réaction, si jamais il y a manifestation plus ou moins brutale des agriculteurs mandés par la FNSEA pour défendre ce projet, si la réaction du gouvernement est au même niveau que l'absence de réaction, que le retard à la réaction qu'a connu, que nous ont montré, les membres du gouvernement durant 2 interminables jours. Ils ont été plus rapides, il est vrai. Aller baiser la pantoufle de Bernard Arnault ou aller saluer Franck de Margerie, ça a été moins rapide. Là, on va voir s'il y a 2 poids 2 mesures. Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que ça instille le doute, cette affaire-là. Manifestement, il y aurait 2 poids 2 mesures. Manifestement, il y a des voix que l'on n'aurait pas envie d'entendre au plus haut niveau de l'État. C'est pas très bon pour la démocratie.
L'égalité, légitimité, c'est toujours ce débat. Pas forcément d'ailleurs là-dessus.
Mais... Ah bah là, on l'a vu. Si vous voulez, les élus s'arc-boutent derrière le fait que ce projet a été voté, ce qui est vrai. Ces élus sont issus du vote démocratique, ce qui est vrai. Ce projet est donc légal. Il symbolise la légalité du pouvoir exercé par les élus. Simplement, ce qu'on voit là, c'est que ce pouvoir est considéré comme illégitime. Pourquoi ? Parce que le schéma de décision qui aboutit à ce projet n'a pas tenu compte, n'a quasiment jamais tenu compte de l'avis de la population. Les élus sont censés défendre l'intérêt général. C'est là qu'ils puisent leur légitimité. Là, manifestement, cet intérêt général, ils l'ont oublié en oubliant simplement de consulter le peuple. Et donc, leur légitimité est remise en cause. Et ça aussi, c'est très grave pour la démocratie. Et puis, c'est là où on sent qu'on est sans doute à un changement d'époque. Le vote issu des urnes, la légitimité issue des urnes n'est pas une légitimité éternelle. Elle se termine. Elle s'arrête, elle est jugée en permanence par le peuple qui peut la remettre en cause. Et là, c'est quand même une révolution dans notre exercice démocratique en France.
Alors, un petit rappel, quand Delphine Bateau, on rappelle aussi qu'on en est déjà à 4 ministres de l'environnement, donc c'est vraiment un poste qui n'est pas forcément durable. Mais quand Delphine Bateau donc, était passée donc, au pouvoir, elle avait lancé ce moratoire. Après, elle a été virée de son ministère pour cause de gaz de schiste. Et après, Philippe Martin, donc éphémère ministre de l'environnement, a eu le temps de signer l'autorisation pour cette retenue, avec 2 avis contraires du Conseil d'experts de la protection de la nature, mais c'était que des avis. Et puis, c'est pas complètement le hasard. Donc, l'ancien président du Conseil général du GIERS, qui est Philippe Martin, qui d'ailleurs a une sensibilité environnementaliste absolument incontestable, a pour vice-président un ami socialiste qui est François Daguzan, qui est le président de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Et qui a fait l'étude préliminaire, c'était les coteaux de Gascogne. Et donc la conclusion, c'est qu'il fallait faire évidemment ce barrage. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de rejoindre Ben Lefeutet, donc du collectif du Testet. Et dites-nous, s'il vous plaît, là, je voudrais juste que l'on axe sur les alternatives. Les alternatives ne furent pas véritablement étudiées. Qu'est-ce que l'on peut dire, Ben Lefeutet ?
Écoutez, concernant l'accès à l'eau pour les agriculteurs, il y a plusieurs mesures possibles. Il y a à la fois d'optimiser les 185 retenues collinaires existantes sur le bassin. Certaines ne sont plus utilisées et donc il faut partager cette ressource en eau entre les agriculteurs qui en ont besoin. Et puis il y a évidemment la possibilité d'accompagner les agriculteurs pour économiser l'eau, à la fois en termes d'équipement, mais surtout les nouvelles pratiques agricoles qui permettent de préserver l'eau dans les sols, par exemple les couverts végétales, la coforesterie, et puis un certain nombre d'alternatives agronomiques qui sont aujourd'hui expérimentées et qui font leurs preuves.
Comment se fait-il que cela n'ait pas été étudié ?
Les alternatives n'ont pas été étudiées, comme le rappellent les experts, parce que c'est la CCG, le constructeur de barrages, qui a fait les études. Donc évidemment, elle, son intérêt, c'était de montrer qu'il n'y avait pas d'autre choix que de faire ce barrage de Sivens. Et donc, elle n'a pas étudié sérieusement les alternatives. Elle les a écartées du revers de la main. Et évidemment, c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui avec un projet de barrage qui est passé en force.
C'est-à-dire qu'en fait, cette compagnie d'aménagement donc, des coteaux de Gascogne a fait donc, cette étude d'abord en 2001. Elle a été donc, ensuite réactualisée en 2009. Et c'est là que les experts, là, récemment, ont taclé cette réactualisation.
Oui, nous avons démontré il y a un an déjà que cette étude de 2009 était une étude bidon puisqu'elle n'avait pas actualisé les données de terrain et donc le barrage était surdimensionné. À partir du moment où il y avait beaucoup moins d'eau qui était nécessaire, les alternatives s'ouvraient, y compris donc de faire des réserves sur les fermes comme on le propose. Il y a quelques fermes qui n'ont pas de réserve jusqu'à présent. Évidemment, celles-ci doivent être aidées pour faire des petites réserves au cas par cas avec des contreparties sans doute environnementales. Mais voilà, la CCG, elle, n'est pas intéressée par les alternatives puisque ça ne lui rapporte pas d'argent. La seule chose qui lui rapporte de l'argent, c'est de faire un gros barrage. Donc elle a préféré mentir pour maintenir ce gros barrage comme projet dans le Tarn. Ce que je voudrais rajouter au niveau des alternatives, c'est que l'alternative la plus intéressante sur le long terme, c'est surtout d'aider les agriculteurs à pouvoir vendre leur production pour le marché local. Et le marché local le plus intéressant, c'est la restauration collective, qui est en partie gérée d'ailleurs par les collectivités, puisque le Conseil général du Tarn gère jusqu'à présent les collèges. Et donc il y a tous les repas qui sont fournis chaque jour dans les collèges, mais également évidemment dans les lycées, les écoles, les hôpitaux, etc. Il y a un marché énorme ici qui pourrait être un débouché tout à fait favorable pour les agriculteurs du bassin, avec des contrats garantis sur le long terme, des prix rémunérateurs. Bref, ce qui s'est fait déjà ailleurs en France, mais qu'aujourd'hui, le Conseil général se refuse toujours à faire dans le Tarn.
Alors, en fait, Thierry Carsonac dit qu'ils ont commencé à le faire.
Oui, évidemment, le Conseil général a commencé à explorer ces alternatives, on va dire, circuits courts dans le Tarn, mais ça n'a jamais été étudié sur le bassin du Tescou, puisque là, il fallait d'abord faire le barrage de Sivens, et après, on pourrait commencer à s'intéresser à ces questions.
Ben Lefeutet, donc là, on a bien vu qu'il y avait un arrêt des travaux, on va dire contraint et forcé. La suite, qu'est-ce que ça peut être ?
La suite que nous souhaitons, c'est d'être autour de la table avec les agriculteurs du bassin du Tescou, évidemment le Conseil général, les différents agriculteurs institutionnels. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que chacun expose les alternatives qu'il propose au barrage de Sivens. Nous avons donc les idées que je viens de vous présenter, mais nous sommes également tout à fait à l'écoute des idées tout à fait pragmatiques des agriculteurs du bassin du Tescou, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de la FNSEA ou de la Chambre d'agriculture du Tarn.
Alors ce qui est fou, donc, c'est que cette dramatique histoire concentre tous les problèmes actuels, c'est-à-dire choix d'agriculture, relation avec l'Europe qui détermine par ses aides un type d'agriculture, démocratie, fonctionnement des experts. Est-ce qu'on a beaucoup entendu parler au cours des différents débats d'un changement, c'est-à-dire de pratique, et une fois de plus, les agriculteurs, il faut qu'ils vivent, on en a absolument besoin, on a besoin d'une agriculture qui est forte, on n'a jamais dit le contraire dans cette émission, loin de là. Je tiens à préciser que dimanche, il y aura une marche silencieuse d'ailleurs aussi à 14h, donc demain à Sivens. Et tout ceci, vous l'avez aussi évoqué dans votre ouvrage, Frédéric Frédéric Danhué, donc sur les sols, on en a parlé donc il y a pas longtemps, ces sons de ruiner nos sols, c'est aussi cette adaptation avec le réchauffement climatique.
Ben c'est effectivement, si on manque d'eau, alors effectivement c'est une région où la disponibilité de l'eau en été est de plus en plus faible, donc il faut trouver des solutions. Mais là, c'est une solution technique. D'ailleurs, pour le précédent barrage à Fourogue, c'était exactement le même surdimensionnement. Il y a d'autres solutions. Il y a une multitude de petites retenues collinaires, d'accord. Et puis, il y a simplement, vous savez, s'il y a un peu moins d'eau disponible, il faut que cette eau soit captée le plus facilement possible. Et si cette eau, si on veut qu'elle soit captée le plus facilement possible, ben, il faut rendre le sol capable de capter le peu d'eau qu'il va tomber dans les années à venir. Et on en revient effectivement à ces sons de ruiner notre sol, à un travail du sol de qualité, à des cultures de qualité. Ben Le Feutet vient de le dire, à un couvert du sol en hiver. Bref, des solutions qui font que le sol par lui-même va accepter beaucoup plus d'eau et va la relarguer gentiment comme une éponge, comme un tampon. Effectivement, on n'a pas parlé de ça. Ça, c'est un travail culturel de longue haleine. Ça, ce n'est qu'un travail d'ingénieur.
Nous allons partir voir les oiseaux. Ce sera la deuxième partie, le deuxième volet de CO2 Mon Amour.
France Inter, CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are ready.
Chicago sur France Inter, CO2 Mon Amour, c'était Crosby, Stills, Nash & Young en 1971. Nous pouvons changer le monde, réorganiser le monde qui est en train de mourir pour qu'il soit meilleur. C'était ce que nous disait en substance Graham Nash dans cette chanson. On va s'offrir un autre voyage. J'allais dire, en fait, oiseau à tous les étages, et l'étage des oiseaux, il y en a 15, il s'appelle le ciel. On va voler avec les oies. Alors nous avons un très bon numéro de Terre Sauvage, notre partenaire du numéro de novembre, avec, je tiens à lire aussi, un très bon papier sur Lanka Oxting, que vous ne connaissez pas, qui est une femme qui travaille pour une organisation non gouvernementale portugaise sur les graines. Prenez-en de la graine, le monde a déjà perdu 75% de la diversité agricole qui existait jadis. Les semences industrielles menacent les semences libres, et donc là, elle nous donne des solutions et le combat qu'elle aussi est en train de mener. Et puis, en couverture, on voit des oies. Oui, on voit des oies, on voit des bernaches nonnettes, des bernaches cravants, donc des oies sauvages. Et devenir Nils Holgersson, bah, c'est peut-être pas comme ça à la portée de tout le monde, mais on va donc s'envoler avec Stéphane Combe qui a suivi un homme qui s'appelle Christian Moulet, qui s'est fait connaître en volant donc avec les oies. On va partir dans le Cantal, pas très loin du Puy Marie, du Falgou, du Puy Violent, c'est très très beau. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Reportage signé Stéphane Combe, volons avec les oies.
Ça y est, c'est parti.
Tu vas voler des maintenant là ?
Non, on va voir un petit peu les oiseaux déjà.
Je suis en train de changer l'eau.
Donc on va visiter un petit peu notre basse-cour. On a ici autour de nous donc trois grues cendrées. Un couple de cygnes chanteurs qu'on va essayer de faire chanter tout à l'heure. On entend les grues là. Elles sont un petit peu intriguées de voir quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Des bernaches nonnettes là, qui nous répondent. Un couple d'oanennes, un couple de grues demoiselles et sept oies cendrées. Et je vole avec tous ces oiseaux. Et
oui. Comment as-tu récupéré tous ces oiseaux, Christian ?
Tous ces oiseaux proviennent d'élevage. Et pour pouvoir voler avec ces oiseaux, bien sûr, il faut être présent dès la naissance. Et ensuite, ne pas les lâcher d'une semelle. Hein. Ça fait plus de 10 ans que je vole avec les oiseaux, avec les oanennes. La priorité, ce serait de protéger les zones naturelles ou d'enseigner aux chasseurs à ne pas tirer les espèces protégées. Mais on s'est rendu compte qu'il était plus facile d'éduquer les oies à changer de zone d'hivernage que d'éduquer certaines personnes. Il faut absolument que ces oiseaux nous considèrent comme leurs parents. Parce que s'agissant des oies, des grues et des cygnes, ces oiseaux qui sont des oiseaux migrateurs n'ont pas l'instinct de la migration. Ces oiseaux apprennent avec leurs parents les voies traditionnelles de migration. C'est un comportement acquis, ce n'est pas instinctif. C'est la raison pour laquelle ces oiseaux peuvent nous suivre en vol, s'ils nous considèrent comme le parent. C'est à nous de leur enseigner les routes de migration.
D'éviter les chasseurs.
C'est ce qu'on a commencé à faire avec les oanennes. On doit le poursuivre pendant environ 5 ans pour créer une nouvelle population importante d'oanennes.
On entend d'ailleurs un dominant là, hein, celui qui a la face blanche. Mais les grues cendrées, c'est grand, c'est puissant, mais c'est d'une grâce. Alors il faudrait pouvoir voir aussi leur cou comme un point d'interrogation et qui s'étend comme ça pour faire leur salut magnifique.
Un enfant disait qu'un cygne était un canard majuscule. Je trouvais que c'était une belle phrase.
Philippe et Rémi, on s'en va à l'aéroport.
Donc là, Christian, on est sur l'aérodrome d'Aurillac. Tu es avec la boîte, en fait, dans laquelle se trouvent les...
La boîte de transport dans laquelle se trouvent les oiseaux.
Elles sont impatientes de voler ?
Oui, absolument. Elles savent qu'on va voler.
Elles reconnaissent l'ULM ?
Tout à fait, tout à fait. Mais elles suivent non pas l'ULM, elles suivent la personne qui pilote l'ULM.
C'est-à-dire toi.
Alors, il va y avoir un étranger sur l'ULM aujourd'hui.
C'est-à-dire moi.
Voilà. Mais t'as aussi la moustache. Et...
Ah oui, j'ai la moustache et la barbichette, voilà, là, le bouc.
Qui ressemble à la mienne. Peut-être qu'elles vont faire la confusion, donc tout est parfait. C'est important.
Allez, allez. Ça y est, là, Christian accélère et hop,
ça y est, elles sont en vol, nous aussi.
Elles sont à quelle distance par rapport, les bernaches nonnettes, par rapport à l'aile de ton ULM, Christian ?
Un mètre, deux mètres, là on vole à 65 km/h.
Et elles volent donc à plus de 65 km/h, vu qu'il y en a une qui bouge.
Alors les nonnettes peuvent voler jusqu'à 110 km/h.
Là, elles sont au-dessus de nous, même. Et hop,
on va essayer de les faire monter un peu plus, hein, parce qu'on sera plus tranquille en altitude. Ce qui est étonnant quand même, si je tarde moi-même à décoller avec des oiseaux qui seraient déjà aptes au vol, on découvre la stupéfaction de l'oiseau qui vole pour la première fois. Il est capable de voler, mais il ne sait pas qu'il peut voler. Et il a un vol très maladroit. En quelques séances, il vole parfaitement. Ils utilisent déjà, comme tu peux le voir, les courants. L'air qui est plus dense sur le bord d'attaque de l'aile, elle s'appuie contre l'aile, elle ne bat pratiquement plus des ailes. Tu vas pouvoir toucher cet oiseau-là.
Oh là là. Je touche la queue de l'oiseau.
Tu sais qu'il y a autant de personnes qui ont touché un oiseau en vol qu'il y a de doigts sur ta main.
Là, franchement, Christian, c'est le rêve d'Icare, là.
Voilà, le rêve d'Icare réalisé. Nous sommes des oiseaux parmi d'autres oiseaux.
En ce qui concerne le pilotage, parce que là, elles sont en V autour de nous, mais ça demande de ta part, j'imagine, beaucoup d'attention, beaucoup de doigté pour ne pas les percuter là. On est...
Écoute, elles m'évitent beaucoup mieux que moi je ne les évite, hein, bien sûr, elles sont très à l'aise. Elles... Mais en fait, d'être concentré sur quelque chose qui est beau, un oiseau en vol, quand tu voles avec lui, c'est quelque chose de merveilleux. Tu es bien, regarder ce spectacle, quelque chose de millénaire. Et quand on s'en sent bien, eh ben, on fait moins d'erreurs. On ne se concentre pas sur des choses superflues.
Alors là, c'est extraordinaire parce qu'il y a une bernache nonette qui vient juste de se mettre sous le talon de ma chaussure et j'ai senti le bout de son aile qui a touché le talon de ma chaussure.
Ouais.
Parce qu'en fait, on est dans le vide, nous. Hein. On est assis sur un fauteuil volant et elles sont autour de nous. C'est...
Regarde celle qui plane là devant, regarde comme c'est beau. Là. Elle plane et en même temps, elle tourne la tête à droite, à gauche, elle regarde.
Et là, on va atterrir et les bernaches nonettes sont en face de nous. On est à 2,50 m du sol. Hop, on est posé.
Allez, allez!
Là, les bernaches nonettes sont à une cinquantaine de mètres de l'ULM, sur la gauche. Et là, qu'est-ce qu'elles font?
Elles regardent toujours autour d'elles. Il y en a une qui est dressée. Il pourrait y avoir un renard. Hein. Tu les vois qui courent vers nous. Voilà, même en vol. Tu vois, elles viennent en vol vers nous. Il y en a une. Allez, 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 allez. Allez, venez.
Voler avec les oies, Christian Moulec et donc Stéphane Combe. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a un moteur, etc. Bon, l'ULM solaire, tout ça, ça viendra peut-être un jour quand même. Et donc, consacré aux oiseaux, tout en vous rappelant que vous avez le site franceinter.fr, CO2 Mon Amour. Donc là aussi, hein, réaction sur l'émission, si vous souhaitez converser, ne vous gênez pas hein, sur le site de CO2 Mon Amour, franceinter.fr. Et vous avez aussi d'ailleurs le Twitter chez Sous, simplement, CHEI2SOUX. Là aussi, je vous donne régulièrement quelques petites informations et puis ce qui se passe la semaine suivante sur l'émission. Et on va rester dans le monde des oiseaux parce que à Ménigoutte. Connaissez-vous Ménigoutte ? Dans les Deux-Sèvres. Hein, vous ne voyez pas où est Ménigoutte ? Eh bien si, quand même, Ménigoutte. Non. C'est le 30e festival du film de l'oiseau. Et ces gens-là ont été absolument précurseurs. Donc il y a la LPO, mais pas seulement. Et on va d'abord se tourner vers Dominique Brouard, que j'ai rencontré, qui est l'âme de l'IFCAM, autrement dit l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoutte. Nous étions au milieu du bocage. Qu'est-ce donc Dominique Brouard ?
Eh bien oui, c'est une école de cinéma animalier. C'est l'unique école de cinéma animalier. On est sur la petite commune de Coutières, à proximité de Ménigoutte. Et là, donc, on a des jeunes qui viennent de la France entière et même de l'étranger pour apprendre à réaliser des films, mais des films animaliers. Alors, filmer, c'est à peu près à la portée de tout le monde, avec un grand angle, mais filmer avec un téléobjectif de 500 mm des oiseaux en vol ou des mammifères en mouvement, c'est pas facile. Pour approcher les animaux d'une manière générale, il y a un certain nombre de techniques. Alors, ça n'est avant que cette école existe, hein, ça a démarré en 2004, il y avait déjà des cinéastes animaliers, des gens extrêmement compétents, mais qui ont mis des années à expérimenter des choses, à initier des procédés pour pouvoir capter des images un peu secrètes de la nature, et bien là, on gagne.
C'est un laboratoire. Quoi,
ouais. C'est un véritable laboratoire. Et les quinzaines de jeunes qu'on accueille tous les ans ici, ben, ma foi, partent un peu partout dans le monde pour travailler avec des équipes sur des sujets extrêmement différents qui ont trait à la nature, à l'environnement, et puis bien entendu à la faune et à la flore.
Et alors ça propage, j'irais aussi dans le département, parce que même les agriculteurs sont sensibles à ça, c'est-à-dire que ça redonne quand même une fierté, ça donne aussi un autre regard sur le paysage et sur ces bocages.
Le département des Deux-Sèvres, effectivement, c'est bien approprié. D'abord, c'est porté par le département, cette école, en lien avec l'université de Poitiers, mais du coup, ça a déclenché beaucoup d'envie, les gens ont envie de montrer leur savoir-faire, et on fait appel régulièrement à des jeunes étudiants de l'IFCAM ou issus de l'IFCAM pour montrer quelles sont les pratiques. Alors, on parle beaucoup du bocage dans le département des Deux-Sèvres et donc on réalise régulièrement des sujets sur les thèmes de gestion du bocage. On a aussi les plaines avec des espèces assez remarquables dans le département des Deux-Sèvres, l'outarde, le busard cendré, etc. Et là aussi, donc, on a des terrains d'expérimentation et bien sûr les acteurs engagés sur les questions de la biodiversité dans le département des Deux-Sèvres les professionnels ont envie de montrer comment on peut agir pour localement apporter un certain nombre de solutions à la protection de la biodiversité. Et l'image est un bon vecteur pour ça. Le son aussi, bien entendu, mais on est sur des... D'ailleurs, dans le cinéma, dans cette école, on travaille l'image, mais également le son, parce que c'est
indispensable. Bien, oui.
Mais bien entendu.
Voilà. Et puis nous, on fabrique des images, mais uniquement avec des sons.
Bah, écoutez, Denis, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est tout simple, c'est une vraie école de cinéma à la campagne.
Et voilà, on laisse passer donc les oiseaux. Donc c'est l'ifcam.net. Vous trouverez bien sûr ces références si vous le souhaitez. Et on va se tourner, puisque nous fêtons donc les 30 ans du Festival de Ménigoud, vers vous, Jacques Pellerin. Bonjour à vous. Alors Jacques Pellerin, peut-être quelques mots pour nous faire pousser des plumes.
Bonjour Denis, bonjour. Ces oiseaux, ils nous apportent le printemps, ils nous apportent les saisons, ils nous apportent la joie de vivre, ils nous apportent le témoignage des milieux qui sont riches ou moins riches. Il y a des espèces qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, donc tout n'est pas perdu dans la nature. Il y a des mouvements qui se font. Voilà, c'est comme ça que je le ressens.
Mais que viennent chercher en fait les amoureux des oiseaux ?
Alors, les amoureux des oiseaux, en fait, ils le deviennent comme ça. C'est un ami qui les promène et qui leur montre que autour de chez eux, dans le jardin ou à Paris, dans le parc du Luxembourg ou alors dans le bocage du Nord de Sèvres, il y a des oiseaux. Et hier matin, par exemple, j'emmenais un groupe de 20 personnes qui venaient de toute la France au festival. Il y en avait de Marseille, il y en avait de Dijon, il y en avait de Bretagne. Et puis, on fait un tout petit tour de 3 heures autour de Ménigoud et on voit, je commence par les pigeons bisets, par les étourneaux, puis il y a un pic noir un peu plus loin, etc. Et les gens sont émerveillés même d'un moineau. On leur raconte l'histoire de ces oiseaux, pourquoi ils sont là, comment ils vivent, etc. Et à la fin, au bout de 3 heures, ils nous remercient tous avec beaucoup d'émotion. Et c'est assez émouvant, je dois dire.
Alors vous, Jacques Pellerin, qui êtes aussi vétérinaire de formation, que vous ont enseigné ces oiseaux ? Est-ce que votre regard a changé depuis que vous vous intéressez à eux ?
Ça apporte une grande sagesse, ça apporte une compréhension de la nature aussi, je trouve. Et puis après, on apprend à les observer, à les connaître, et puis après on a envie de les protéger. Et on s'aperçoit que les enfants, comme les adultes, comme les gens âgés, finalement, quand on leur parle de ça avec calme, avec émotion, ils mordent assez vite. Hein. C'est assez facile de se faire des amis des oiseaux parmi les oiseaux, je dirais.
Alors Jacques Pellerin, vous qui avez un nom d'oiseau, on ne va pas parler du faucon, mais on va parler de la cigogne noire, parce que vous l'aimez particulièrement.
Oui, alors j'adore la cigogne noire. Pourquoi ? C'est parce que dans le nord de Sèvres, à 7 km de chez moi, un jour je vois une cigogne noire. Il faut savoir qu'il y a 32 nids en France, c'est très très peu. Et puis, c'était au mois d'avril, 8 avril. Le 28 avril, je vois 2 cigognes noires sortir d'un bois et d'une zone humide. Alors là, je me dis, mais c'est pas possible, elles doivent nicher là. Alors je les ai observées pendant 5 mois. À un moment donné, elles vont être absentes pendant 2 mois. En fait, c'est le moment où elles nourrissaient leurs petits, on ne les voyait plus. Et puis voilà, j'ai fait des affûts, ça durait 3 heures. Quelquefois, je les voyais passer pendant 10 secondes seulement, mais quelle joie immense. Et puis au matin, au lever du jour... Comme je dis souvent, c'est l'horloge des oiseaux en attendant ces cigognes passer parce qu'elles s'en vont le matin, donc on les voit décaler. C'est d'abord la grive draine qui chante, puis après c'est la grive musicienne, et puis après un peu plus tard c'est le merle, puis c'est le loriot, etc. Bon, et puis un chevreuil qui passe, il y a un écureuil sur sa tête parce qu'on est caché sous un filet, et puis on emmène un ami voir ça, mais un seul parce qu'on veut pas le déranger. Alors on fait ça très discrètement, puis voilà, c'est la joie. Et après on entraîne d'autres, et c'est comme ça. Et pour finir, je dirais, en faisant des conférences dans les écoles, il y a un petit enfant, je lui expliquais cette découverte de la cigogne noire, et il attendait que les copains s'en aillent, il avait 8 ans, et puis il me dit « Monsieur, ce que vous nous avez dit, ce que vous nous avez montré, c'est géant ». Et là, j'étais le plus heureux du monde, parce que quand un enfant dit une chose pareille, c'est que ça restera toute sa vie, je pense.
Merci à vous, Jacques Pellerin. C'est donc un mini-goutte encore tout ce week-end, et puis le grand reportage volé avec les oies sauvages, c'est dans Terre Sauvage.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau. Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qu'apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage, des plumes en écailles, des ailes en chandail, des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau?
Eh ben oui, ah ben oui, ça s'imposait, hein. Donc voilà, vous êtes bien sur France Inter, CO2 Mon Amour, et nous poursuivons avec le 01 56 40 40 35, c'est le numéro du répondeur.
Oui, en ce qui concerne, bonjour France Inter, en ce qui concerne la transition énergétique, il y a en France plein de moulins-usines qui datent du 19e pour les plus récents. Ces moulins-usines potentiels de 50 kWh, chacun avec une technologie du 19e, sur 50 moulins par département, multiplié par 50 départements métropolitains, c'est toujours en fourchette basse, multiplié par 5000 heures d'utilisation, environ 9 mois, égale la modique somme de 62 500 000 kilowatts sur une année. Ce n'est pas mince, et ce n'est pas l'EDF qui va aller militer pour le maintien des niveaux d'eau. Imaginons-nous que tous ces moulins se mettent à produire. Je ne parle pas des petits moulins qui produiraient en autoproduction leur eau chaude sanitaire, des petits moulins à 5-10 kg pour certains, voire moins pour d'autres. Et là, il y en a 1000 par département. C'est quand même pas rien. Sans équipement supplémentaire, tout est équipé, il n'y a plus que le feu vert. Seulement, on nous met des bâtons dans les roues. Et ça, avec une technologie du 19e, avec une technologie du 21e comme les éoliennes, c'est le double. Merci, félicitations, à bientôt.
Bonjour Denis, merci de nous donner l'occasion de parler de Prétoo. Prétoo est un site internet www.prétoo.fr dont la fonction est la mise en relation des personnes souhaitant se prêter des objets dont ils n'ont un usage que ponctuel. Le voisin du troisième étage vous prête une des deux cafetières qu'il a à son domicile. Le couple de l'immeuble en face vous emprunte l'intégrale de sa série favorite. Vous pouvez également choisir de donner certains objets. Prétoo a été fondé au mois d'avril 2013. Et est géré par des bénévoles. Tout est gratuit sur le site. L'inscription et le prêt d'objets. Il n'y a par ailleurs ni publicité, ni mise en vente de la base de données des utilisateurs. Prétoo repose donc sur un système de dons. Une levée de fonds solidaire va prochainement avoir lieu pour financer une application téléphonique. Prétoo a trois objectifs. La réalisation d'économies financières à l'échelle individuelle, la réduction de la production d'objets neufs, la recréation de liens sociaux. Avec déjà près de 2000 utilisateurs et plus de 3000 objets à s'emprunter, ce réseau social actif est à la croisée de l'économie sociale et solidaire et de l'écologie. Merci pour votre soutien. A très bientôt sur www.prétoo.fr.
Oui, bonjour à tous. Je viens d'écouter le dialogue là, entre ces deux personnes concernant la région PACA. Mes parents habitaient ailleurs et je me suis constamment demandé pourquoi, sur tous les toits de la région PACA, on ne voyait pas de capteurs photovoltaïques. C'est une région très ensoleillée et on n'utilise pas le soleil. Mais pourquoi? Voilà, merci à vous pour vos émissions.
Mais parce que nous sommes en France, chère madame. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et oui, voilà. Non, il se fait quand même des choses, il ne faut pas exagérer quand même. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Et alors, Frédéric, on va répondre donc à une question d'auditeur. Là aussi, 01 56 40 40 35.
Oui, bonjour Denis, je m'appelle Ariane, je vous téléphone de Beauvais. Ma question porte aujourd'hui sur la biomasse. J'en entends parler de plus en plus. Et je voulais savoir si n'importe quelle matière organique pouvait produire de l'électricité d'abord. Et ensuite, je voulais avoir une idée de la performance de ces matières selon leur origine, ainsi que leur disponibilité, qui varie, je suppose, selon les territoires. Merci pour votre réponse, merci pour votre émission.
Alors, qui varie selon les territoires, absolument. Là, chaque fois, vous donnez le chiffre précis, ça ne va peut-être pas complètement l'avoir, mais que peut-on dire donc globalement sur cette biomasse qui, maintenant, on la mobilise pour la transformer en électricité? Frédéric Danhé.
Eh bien oui, c'est une lapalissade, on redécouvre l'eau tiède comme d'habitude. La biomasse, c'est la matière organique, c'est du carbone, c'est de l'azote, de l'hydrogène, c'est les molécules qui nous constituent, nous, ainsi que nos déchets industriels, pas nos déchets industriels, nos déchets ménagers, les déchets de station d'épuration, les déchets agricoles, voilà, c'est tout ça. Et effectivement, Dans certaines conditions à l'abri de l'oxygène, certaines bactéries vont transformer tout ça en un compost, en un jus assez immonde et surtout en biogaz, c'est-à-dire voilà. En méthane, autrement dit en gaz naturel.
Et si je vous dis jus de choucroute, hein, parce que j'ai dit ça
le
tout à l'heure.
Jus de chaussette, je vois à peu près. Le jus de choucroute.
Oui, et alors ben, vous allez voir, on va donc partir en Alsace, on va donc recycler là aussi le jus de choucroute. Avec vous, Daniel Karcher, vous êtes le directeur de la Lyonnaise des eaux du Grand Est. Racontez-nous jus de choucroute et électricité.
Écoutez, l'idée de cette nouvelle station d'épuration qui a été construite chez nous en Alsace.
Nous sommes dans le Bas-Rhin,
nous sommes dans Maistratzheim, qui est une commune qui est près d'Aubernais, donc à une dizaine de kilomètres au sud de Strasbourg.
D'accord. Donc on est dans ce qu'on appelle la plaine du Chou.
Tout à fait. Ah. À côté de la capitale mondiale de la choucroute, à Krautergersheim.
Et donc après, donc je mange ma
choucroute. Et donc les élus de ce secteur ont eu l'idée il y a quelques années. Et la volonté d'intégrer la problématique du jus de choucroute à leur nouvelle station d'épuration. Mmh. Le territoire local produit à peu près 70% de la consommation nationale de choucroute. Donc vous voyez que c'est une production extrêmement importante. Et le jus de choucroute était jusqu'alors plutôt problématique. Parce que ce jus de choucroute est très acide.
Donc devenait une pollution, quoi. Il fallait le traiter.
Voilà, il ne peut pas être mis dans le réseau d'assainissement. C'est une pollution très concentrée en matière organique et c'est une production totale de jus qui représente à peu près la pollution d'une ville de 140 000 habitants.
Oui. Dans un registre différent, ça rappelle un petit peu le petit lait qui sortait et qu'à une époque on le donnait aux cochons. Et puis lorsqu'il n'y avait plus de cochons, et bien le fameux petit lait des vaches s'est bien posé un problème. Donc qu'avez-vous fait ?
Il y a une nouvelle station d'épuration qui a été construite à côté de ce village de Maistratzheim et dans cette plaine de la choucroute. Et cette nouvelle station illustre une nouvelle philosophie. On passe d'un déchet jusqu'alors problématique à une matière première à valoriser énergétiquement.
C'est-à-dire que le liquide va fermenter et un méthanisateur spécial va fonctionner avec l'aide de nos merveilleuses petites bactéries.
Alors, en effet, nous recevons sur cette station à peu près 1200 camions par an, soit à peu près 30 millions de litres de jus de choucroute que nous déversons dans une tour de méthanisation. Et dans cette tour, vous avez des bactéries qui vont consommer le jus et le transformer en biogaz, donc une énergie renouvelable.
Donc formule tout à fait classique, qu'est-ce que ça produit par an ?
Alors ce biogaz, nous le brûlons dans un cogénérateur qui nous fournit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Nous utilisons la chaleur pour les besoins du site et ainsi nous produisons à peu près 76% de notre propre consommation en chaleur. Et c'est là le côté plus intéressant, l'électricité produite est revendue à EDF. Mmh. Nous produisons chaque année à partir des jus de choucroute, mais également des eaux usées de la station d'épuration, hein, puisque les deux sont sur le même site. Donc nous produisons sur ce principe l'équivalent de la consommation de 1000 foyers, soit à peu près la population des villages aux alentours.
Eh bien Frédéric Danhé, vous aurez moins de culpabilité quand vous baffrerez de choucroute maintenant, hein, vous ferez un bon geste comme ça.
Mais non, pas vraiment, parce que cette unité s'est inspirée de ce qui se passe dans nos ventres, mon cher Denis, quand nous bafferons de choucroute, il se passe exactement la même chose. Vous savez, ça va plus loin que ça, l'imagination est sans limite, on peut faire de l'électricité, de l'énergie à partir de tout. Il y a un vieux projet anglais qui aimerait que l'on fabrique dans nos sous-marins, nucléaires ou non, de l'électricité à partir de l'urine des marins, faire du pipi, allumer des lampes en faisant pipi dans un sous-marin. Alors ça ne fera pas partir une torpille, pour l'instant on ne produit pas grand-chose. Mais voilà, et ces chercheurs imaginent même que l'on pourrait brancher nos toilettes sur des batteries.
Eh bien, écoutez, ça me fait une très bonne liaison parce qu'on va parler des crottes de panda. Ça, c'est absolument parfait. On va partir aux eaux de Beauval, donc à Saint-Aignan, nous sommes dans le sud du Loir-et-Cher. On va retrouver Daniel Lecoffre qui s'occupe de l'unité de méthanisation du zoo de Beauval, donc bien connu avec ses pandas qui ne sont pas très très nerveux sexuellement, pour quand même bien le dire. Mais au-delà de ça, eh ben, on a vu des images assez intéressantes, Daniel Lecoffre.
Qui a fait le tour de la toile, c'est que les crottes de panda vont chauffer la serre des éléphants. Par le biais de la méthanisation, on va récupérer tous les excréments de nos animaux, dont les pandas, et par un phénomène biologique, dans une usine qu'on vient de construire qui s'appelle une usine de méthanisation, on va extraire un biogaz qui va nous servir à chauffer nos serres et puis également, accessoirement, à produire de l'électricité, à la revendre à EDF.
Mais le point de départ, c'est quand même de l'utiliser sur place.
Voilà. Le point de départ, c'est de réutiliser tous nos fumiers, tous nos déchets verts, tout ce qui peut être méthanisable, de le recycler sur place dans notre méthaniseur.
On s'imagine bien que quand même les chers pandas, ils sont toujours deux, c'est ça ou...
ouais, oui, on espère qu'ils seront trois l'année prochaine, mais bon, pour l'instant, ils ne sont que deux. Hein.
D'accord, donc ils nous font des belles crottes bien sèches parce qu'ils mangent du bambou, ceux-là, non?
Exactement, ils mangent 70 à 80 kilos de bambou par jour, des crottes de bambou, voilà.
Bon, alors vous êtes quand même un peu obligé, quand même, disons-le, parce que c'est vrai que le panda, c'est un peu le produit d'appel, mais d'aller trouver du lisier ou bien d'autres matières premières ailleurs.
Le zoo, en fait, produit 50% de la capacité de l'usine et l'autre moitié, on va la chercher à 10 km à la ronde chez des agriculteurs avec lesquels on a passé convention. On va chercher des fumiers, des lisiers.
Qu'est-ce que cela représente en termes d'économie?
On produit l'équivalent de 300 foyers en électricité. Et on fait une économie de 20% de notre facture énergétique au niveau du gaz par notre eau chaude que l'on produit dans la méthanisation et qui nous fait donc économiser 20% de l'économie de gaz.
Et donc les idées se multiplient partout en Europe, dans le monde et aussi en France. Frédéric Danhoué, avant de retrouver Jean-Marie Pell qui va vous parler du chrysanthème, 1er novembre quand même.
C'était évidemment là,
on ne va pas vous le faire au mois d'avril ça. Une bonne nouvelle aussi tout à fait intéressante que l'on voit de la part des collectivités, ça nous emmène à tout.
Ça nous emmène à Tours, oui, c'est l'agglomération de Tours, 40 communes, 800 km² qui a mis en place ce qu'on appelle son SCOT, son schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire voilà l'agglo aujourd'hui, voilà ce qu'elle devrait être demain. Et le grand succès de ce SCOT, son originalité, c'est unique en France, c'est que les personnes qui ont été chargées de le mettre en œuvre ont simulé dès le départ ce que le territoire allait être, en fonction de ce que les élus voulaient. Vous savez, quand on fait un grand projet d'urbanisme comme ça, d'aménagement du territoire, les élus sont tous d'accord pour tout, pour faire de l'écologie, pour préserver des terres agricoles, etc. Et puis au fur et à mesure, la motivation se disperse et on finit par avoir des scots vidés de leur sens. Là, on leur a dit, à force de cartes, on leur a présenté les cartes de leur avenir. Voilà à quoi va ressembler vraiment votre territoire si les décisions sont prises.
Donc ça a permis de mesurer le poids de leurs décisions.
Exactement. Et donc ça a changé leur regard en leur montrant ce qu'il allait être. Et par exemple, ils ont compris, et ça a été fait, que la densité de logements devait être doublée à l'hectare. On est passé de 7 à 15. Ça leur a montré qu'il fallait urbaniser absolument dans les zones qui étaient déjà urbanisées, qu'il fallait tenir compte, par exemple, des gares. On ne peut pas lancer de nouveaux programmes d'urbanisation de bâti à plus de 1000 mètres autour d'une gare. Voilà, on a utilisé l'existant qu'on a densifié. On a retiré des zones qui étaient classées zones urbanisées, on les a remis en terres agricoles et on a d'une certaine façon sanctuarisé des terres agricoles. Au final, on a économisé à peu près 400 hectares qu'on a rendus à l'agriculture. C'est la première fois, c'est le premier exemple en France de simulation, de planification réelle dans le cadre d'un SCOT.
C'est pour ça qu'on souhaitait vous le présenter dans CO2, mon amour. Le 15 novembre, vous êtes avec nous et si vous voulez nous rejoindre à l'Agora de Radio France, ça va être l'ouverture. Ça va être l'ouverture au public. Donc vraiment, venez parce que CO2, mon amour aura lieu en direct et vous serez là aussi. On va parler des représentations du climat avec un bouquin tout à fait passionnant que vous avez écrit. Merci, cher Frédéric. Et maintenant, allons-y.
Dites-le avec des fleurs, dites-le avec des plantes.
Ça aurait pu être le marronnier, eh bien non, le 1er novembre, Jean-Marie Pelt, c'est le chrysanthème. Alors allons-y Jean-Marie, entrons dans le pot de fleurs.
On ne peut pas imaginer la Toussaint sans chrysanthème et on ne peut pas imaginer les rameaux sans buis. Encore que dans le sud méditerranéen, c'est les rameaux d'olivier et pas le buis.
Alors ça vient d'où le chrysanthème? Pourquoi effectivement on fleurit à la Toussaint?
Ce chrysanthème ne vient pas de chez nous. C'est une plante qui provient de l'Inde, de la Chine, du Japon, beaucoup du Japon d'ailleurs, et qui a été introduite bizarrement en France par le capitaine Blancard, qui était un amateur de botanique, l'année de la Révolution française, en 1789. Donc il faut d'abord commencer par dire que sur les tombes avant cette date, il n'y avait pas de chrysanthème. Et que d'ailleurs, sur les tombes après cette date, il n'y a pas eu tout de suite des chrysanthèmes. Il a fallu encore un grand nombre de décennies pour que le chrysanthème prenne la place qu'il occupe aujourd'hui pour la Toussaint, parce qu'on ne pourrait plus aujourd'hui imaginer une fête de Toussaint sans les fameux chrysanthèmes. Pourquoi chrysanthème?
Ça, c'est l'origine du nom ou bien...
Oui, parce que chrysos, ça veut dire jaune. Et anthème, c'est devient d'un anthos, la fleur. Ce sont les fleurs jaunes. Parce que les premier chrysanthème était jaune, mais en fait, il y a aussi des chrysanthèmes violets, il y a des chrysanthèmes rouges, il y a des chrysanthèmes blancs. Donc, le mot n'est pas opportun. Il faudrait trouver un mot qui ne mette pas en évidence sa couleur quand ce n'est pas la vraie couleur. Voilà. Alors, le violet, c'est une couleur intéressante parce qu'elle a toujours été considérée comme la couleur de l'automne. C'est le moment où la lumière qui est solaire en plein été, jaune par conséquent, hein, le soleil, jaune clair, même quand on le regarde de face, on prend des risques. Mais quand il se couche, alors ce jaune commence à évoluer vers du rouge et dans de nombreux pays que j'ai visités, vers du violet. Ce qui est très typique en Afghanistan, où j'ai beaucoup travaillé, c'est que le soir, tout devient violet. Les montagnes deviennent violettes, il y a une atténuation du rayonnement solaire. Et par conséquent, c'est le symbole de l'automne. Donc le chrysanthème arrive bien à cette saison, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi on ne met pas d'autres fleurs sur les tombes que les chrysanthèmes. Ben, la réponse est très simple, il n'y en a pas.
Voilà, parce que celui-là, il a le bon goût de fleurir au bon moment.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'il est, ouais, il est décalé, il est...
Non, il fleurit au bon moment. Alors il fait partie de ces plantes rares, d'ailleurs, qui fleurissent quand les nuits sont plus longues que les jours. Ah. C'est ce qui se produit après le 21 septembre. Vous ne ferez pas fleurir un chrysanthème avant. Rares sont les plantes qui ont cette propriété. Il y a l'houblon qui est comme ça. Il y a des tabacs qui sont comme ça. Il y a le chanvre qui est comme ça. Mais c'est pratiquement tout. Hein. C'est rare les plantes qui fleurissent quand les jours sont devenus courts et que les nuits sont devenues longues. Ben, le chrysanthème, c'est le contraire.
Et la consommation de tabac, de chanvre et de bière n'est pas supérieure après le 21 septembre.
Non. Mais le chrysanthème a besoin de nuits longues. Alors, on peut faire fleurir des chrysanthèmes le 14 juillet dans une serre. Il suffit d'obscurcir la serre à 4 heures de l'après-midi et de la réilluminer le matin à 7 heures. Alors, les chrysanthèmes fleurissent parce qu'ils croient qu'ils sont dans une période de nuit longue. Et ça, les horticulteurs le savent très, très bien parce que dans leur serre, ils peuvent réguler les longueurs d'illumination ou d'obscurité en fonction des besoins en chrysanthème. Il peut y avoir une période, par exemple, où l'insolation est quand même encore très forte. Ça peut arriver. Des années où il fait très beau très longtemps. Et là, la prudence voudra que peut-être on allonge un petit peu les nuits pour que les chrysanthèmes ne se trompent pas et ne soient pas troublés par le grand beau temps. Le grand beau temps. Donc, c'est une plante qu'on peut réguler pour l'avoir en bon état le jour de la Toussaint sur les tombes. Et alors, à ce moment-là, les cimetières se transforment en de véritables floralies. Oui. C'est très beau, un cimetière à la Toussaint. Mm-hmm. C'est très beau parce qu'on a ces différentes variétés de chrysanthèmes. On a les chrysanthèmes en boule, on a les chrysanthèmes qui sont, au contraire, petits comme des marguerites. C'est la famille de la marguerite. Alors, c'est la famille de ces étranges plantes. Il y en a à peu près 20 000. Ce n'est pas beaucoup, puisqu'en tout, il y a 250 000 plantes à fleurs. Il y en a 20 000 qui regroupent leurs petites fleurs tout ensemble. Une marguerite, c'est une république de fleurs. C'est un groupe de fleurs socialisées. Et tous les petits points jaunes qu'on voit au milieu, c'est tout des fleurs. Ce n'est pas des étamines, c'est des fleurs. Les chrysanthèmes, c'est pareil. Seulement, on s'est arrangé pour que les fleurs du bord, dans la marguerite, les blanches, soient plus nombreuses que les fleurs du milieu, dans la marguerite, les jaunes. Et chez les chrysanthèmes, on s'est arrangé pour qu'il n'y ait plus de fleurs du milieu et qu'il n'y ait plus que des fleurs qui soient comme des pétales. C'est pour ça qu'on a cette impression, comme dans la rose d'ailleurs, et d'avoir une fleur composée, une boule, et on dit d'ailleurs des chrysanthèmes boules parfois, c'est comme ça qu'on peut les appeler, parce que c'est des fleurs qui sont des fleurs sociales. Ce sont des fleurs qui se sont organisées en république de fleurs.
Merci beaucoup Jean-Marie Pelt.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et à très bientôt, cher Jean-Marie. La semaine prochaine, là, ça, je pense que ça va être un beau reportage que j'ai tourné sur le chemin des dames, donc à Craonne, avec Noël Janteur, qui est un agriculteur bio et qui s'est dit, cette terre, d'abord il y a des vraies convictions, et il s'est dit, cette terre est assez martyrisée, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc je crois que c'est un reportage très, très émouvant, donc la semaine prochaine. Je vous l'indiquerai aussi sur le Twitter, le dièse, chez Sous, on dit hashtag, mais enfin bon, c'est un petit dièse, chez Sous, CHE. H-E-I-2-S-O-U-X. Merci à Christophe Imbert, à Hélène Biziot et Frédéric Denry qui est avec nous. Je vous rappelle, le 15, hein, venez dans l'Agora, venez absolument en direct. 01 56 40 40 35, vous connaissez le répondeur. Et puis, bah, possibilité pour vous, hein, de podcaster, de vous abonner aussi à CO2 Mon Amour. L'Actu du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54. Et puis, le bol de nature, là, c'est tôt, hein, c'est tous les vendredis matin, ça dure 3 minutes, chez Delvaux et Boulet, et c'est du côté de 6h25. Je vous souhaite un très bon week-end.